Bien, je vous remercie tous d'être venus, d'avoir affronté la tempête de neige pour arriver jusqu'ici. Donc, on commencera avec un petit peu de retard, mais c'est pas dramatique. Donc, je vous avais laissé la dernière fois avec des négociations israélo-libanaises qui piétinaient et en même temps le gros attentat contre l'ambassade américaine de Beyrouth. Donc, à partir de ce moment-là, c'est le secrétaire d'État américain Schultz qui va prendre directement le dossier en main. Il arrive au Caire le 25 avril 1983 pour une conférence des ambassadeurs américains dans les pays concernés. L'avis des ambassadeurs stationnés dans les pays arabes, sans Wikileaks, est néanmoins très négatif. La dynamique qui avait été lancée en 1982 n'est plus. Les opinions publiques dans les pays arabes sont farouchement hostiles à Israël. Et on voit particulièrement l'ambassadeur à Damas et celui à Beyrouth extrêmement critiques par rapport aux perspectives de paix israélo-libanaise, ce qui choque le secrétaire d'État, qui considère qu'ils sont trop pro-arabes, qui seraient, comme on dirait en anglais, ils sont devenus indigènes, going natives, et qui ne voient plus les intérêts des États-Unis. Schultz préfère entendre l'ambassadeur américain en Israël, Samuel Lewis, qui présente de façon très favorable les thèses israéliennes. L'opinion publique israélienne est lassée par la guerre, donc elle accepterait facilement un retrait rapide du Liban. Auprès de Moubarak, Schultz, poussé par les amis d'Israël au Congrès, insiste sur le retour le plus rapide possible de l'ambassadeur d'Égypte en Israël dans ses fonctions. Le président égyptien le promet en cas de retrait israélien du Liban. C'est produit donc ce qu'on peut appeler un malentendu en termes diplomatiques pour le secrétaire d'État. L'Égypte se contenterait d'une intention déclarée d'Israël de se retirer du Liban par la conclusion d'un accord, alors que pour les Égyptiens, il s'agit d'un retrait effectif des Israéliens au Liban, du Liban, pour permettre le retour de l'ambassadeur égyptien à Tel Aviv. Donc là, vous avez la réunion de travail des ambassadeurs, puis ensuite avec le Menachem Begin, pardon. Ensuite, Schultz va en Israël pour entendre des positions bien connues de ses interlocuteurs et les pousser à conclure. Puis à Beyrouth, Schultz, qui est un ancien Marines, retrouve l'atmosphère de sa jeunesse, avec les tirs d'artillerie qui ébranlent la région de Beyrouth, puisque maintenant l'artillerie druze placée dans la montagne commence à tirer sur Beyrouth, en tout cas sur le littoral. Schultz est un négociateur professionnel, c'est quelqu'un qui a l'habitude des négociations entre les syndicats et le patronat. Il pense que les négociations internationales joue un peu le même jeu du marché que dans les relations de travail. Mais selon son expression, il se sent pris comme un courtier, broker, pris entre un marchand de tapis, le Libanais, et des juristes talmudiques, les Israéliens. Et donc, dans la négociation, on arrive à un accord de principe, le 6 mai, donnant à Sanradad une part de la responsabilité de la sécurité au Liban Sud. Et les États-Unis donnent la garantie à Israël que l'accord ne sera pas renégociable en cas d'opposition syrienne. Donc c'est la partie la plus faible, c'est-à-dire la partie libanaise, qui doit céder et accepter le texte proposé par les Américains et les Israéliens. Philippe Habib, qui pense que c'est un mauvais accord, se tient plutôt sur la réserve. Il ne veut pas affronter son secrétaire d'État. Mais quand Schultz va à Damas rencontrer les interlocuteurs syriens, on lui fait comprendre que l'accord cède trop aux Israéliens et qu'il conditionne le retrait syrien au retrait israélien. Autrement dit, Hafez al-Assad obtient les moyens de bloquer l'application de l'accord. Alors, Habib est chargé de négocier les derniers éclaircissements entre les parties. Il reconnaît lui-même que c'est un mauvais accord pour un mauvais dossier, d'autant plus que Schultz a ajouté une lettre d'assurance suspendant le retrait israélien à celui des Syriens et des Palestiniens, et du coup informé, le président libanais fait une lettre symétrique marquant au cas où le retrait d'Israël ne s'effectuerait pas selon les termes de l'accord, le Liban serait libre de suspendre ses obligations et si le sujet après consultation n'est pas résolu, le Liban sera libre de déclarer l'accord nul et non avenu. Or déjà, l'opposition au régime d'Amin Gemayel a fait du rejet de l'accord son cheval de bataille. Le 16 mai, le projet est approuvé par la Knesset par 57 voix contre 6 et 45 abstentions, dont celle d'Ariel Sharon, qui n'a pas participé au vote. Le Parlement libanais vote le même jour une motion d'appui au gouvernement en vue du rétablissement d'une souveraineté totale avec l'unanimité des 80 députés présents sur les 91 encore en exercice, puisque le Parlement libanais n'a pas été renouvelé depuis une dizaine d'années. Et donc, il y a eu des décès dans le Parlement. L'accord final est signé le 17 mai à Khaldé, dans des versions arabes et françaises, et à Kiryat Shmona pour la version en hébreu et en anglais. Fatal pour le Liban et Kimché pour Israël sont les signataires. Draper signe pour la partie américaine en tant que témoin de l'accord. Donc cet accord entrera dans l'histoire sous le nom d'accord du 17 mai. Il comprend vertueusement les références obligées à la Charte des Nations Unies et au respect de l'indépendance nationale. Il est ambigu sur sa portée juridique, puisque s'il met fin à l'état de guerre entre les deux pays, il est destiné à assurer une sécurité durable des deux États. Ainsi, on ne parle pas de relations diplomatiques, mais de la mise en place de site d'un comité conjoint de liaison auquel participent les États-Unis. Ce comité devra prendre ses décisions à l'unanimité et non pas à la majorité, contrairement à l'ancienne commission d'armistice de l'ONU, où il y avait donc la partie libanaise, la partie israélienne et les représentants des observateurs de l'ONU qui prenaient la décision à la majorité. Ça voulait dire en fait que c'était le représentant de l'ONU qui tranchait en cas de différend. Ce comité est chargé de superviser les arrangements de sécurité et de développement des relations mutuelles entre le Liban et Israël, notamment de régler le mouvement des marchandises, des produits et des personnes, des communications. Dans les 6 mois, les parties s'engagent à négocier de bonne foi sur ces questions. La portée politique essentielle est bien composée par les engagements de sécurité qui définissent une région de sécurité comprenant le Liban Sud. Les seules forces armées acceptées dans cette région sont la police libanaise, les forces de sécurité intérieure, les FSI, c'est-à-dire l'équivalent de la gendarmerie, et les forces auxiliaires libanaises, Al-Ansar, c'est-à-dire en réalité l'armée du Liban Sud. La garde civile locale existante est intégrée dans les Ansar et se voit accorder un statut approprié dans le cadre de la loi libanaise pour lui permettre de continuer à garder les villages dans la région de sécurité. Deux brigades de l'armée libanaise peuvent stationner chacune dans deux zones au sud et au nord de la région. Son armement est spécifié dans les appendices de l'accord et la FINUL peut rester dans la région de Saïda. Autrement dit, si vous voyez sur la carte, ici vous avez la zone de sécurité, ici les stationnements de l'armée libanaise et la FINUL par là. En dépit des précautions rhétoriques, Israël a obtenu l'essentiel de ses demandes. La mise sous tutelle du Liban Sud par la milice de Sadr Hadad et la normalisation des relations. C'est un véritable traité de paix à qui il manque simplement le nom de traité de paix. Le pari du gouvernement libanais réside dans un retrait rapide de l'armée israélienne sur la frontière internationale, ce qui permettrait de faire accepter l'accord à son environnement arabe. Mais les Américains ont accepté la conditionnalité du retrait de l'armée israélienne au retrait syrien et palestinien. Dès le 18 mai, Damas annonce son refus de recevoir Philip Habib, accusé d'être un responsable américain des plus hostiles aux Arabes. Donc, le diplomate américain se trouve coupé du chef d'orchestre de l'opposition à l'accord. Sur place, l'opposition est nommée par Nabi Berri pour Amal, Walid Jumblatt pour le Parti socialiste progressiste et par les Frangiers. L'argumentaire est qu'on est en face d'une paix séparée qui met le Liban sous tutelle israélienne et qui favorise la partition du pays et l'implantation des Palestiniens. Les combats reprennent avec violence dans le Chouf entre le PSP et les forces libanaises et le principal risque est la reprise de la guerre entre la Syrie et Israël. Si les Occidentaux soutiennent Amin Gemayel, celui-ci n'a obtenu qu'un soutien très mesuré des pays arabes du Golfe. Et comme Habib est hors jeu, la diplomatie américaine est paralysée. Pourtant, le 14 juin, le Parlement libanais approuve l'accord par 64 voix contre 2 et 4 abstentions. Les députés absents sont pour la plupart des élus des régions sous contrôle de l'armée syrienne. Il ne manque plus que la signature du président de la République pour que l'accord soit ratifié. Mais à ce moment-là, on peut déjà parler d'une guérilla permanente contre les forces d'occupation israéliennes. Entre le 1er avril et le 1er septembre 1983, la moyenne mensuelle des attentats est passée à 42, donc plus d'un attentat par jour, avec une pointe en mai-juin. En un an, les pertes israéliennes se sont élevées à 482 tués et 2700 blessés. Surtout, l'insécurité est permanente et l'armée israélienne se retire sur ses positions, se retranche dans ses camps. Elle ne se déplace plus librement dans l'espace libanais. Les chiites sont maintenant, dans leur grande masse, hostiles à l'occupation, tandis que la nouvelle guerre dans la montagne, dans le Chouf, entre forces libanaises et PSP, aliène les derniers soutiens libanais à Israël. Les Israéliens multiplient les ratissages et les arrestations sans pouvoir empêcher une intensification des attentats contre eux. La procédure israélienne standard est d'isoler un village durant plusieurs jours, de rafler les hommes adultes, de procéder à des fouilles systématiques. On abat les oliviers et on brûle les champs de blé à quelques jours des moissons. Au nom des impératifs de sécurité, on détruit les orangeraies et les bananeraies le long de la route littorale. Le gouvernement israélien laisse entendre que, faute de progrès diplomatique, il pourrait procéder à des replis partiels, laissant les Libanais se débrouiller entre eux. Arendt parle de redéploiement en coordination avec le Liban et les États-Unis, qui devraient garantir qu'aucune force hostile n'occupe les secteurs évacués, mais sur le terrain, on ne voit pas qui pourrait donner aux Israéliens une telle garantie. Schultz repart pour le Proche-Orient au début juillet. Les Saoudiens lui font comprendre qu'ils considèrent l'accord du 17 mai comme trop favorable aux Israéliens, donc ils n'exerceront pas de pression sur Damas. À Beyrouth, il peut voir combien le pouvoir d'Amin Gemayel est de plus en plus fragilisé et qu'il dépend de toujours plus des Américains. Le scénario optimiste serait un renforcement de l'armée libanaise qui pourrait progressivement relever la force multinationale, mais on en est extrêmement loin. À Damas, le 6 juillet, Assad se montre calme et courtois, mais l'obstruction est inébranlable. À Washington, Weinberger se fait l'avocat d'un retrait rapide de la force multinationale, dont la mission lui paraît de plus en plus irréalisable. Schultz fait du maintien de la présence américaine à Beyrouth la manifestation publique de la fermeté. Le conseiller à la sécurité nationale, William Clark, est plutôt proche de Weinberger sur le dossier et envoie secrètement, sans prévenir Schultz, un émissaire au Proche-Orient. Il s'agit du numéro 2 du Conseil de sécurité nationale, Bud McFarlane. Donc McFarlane a en collaboration avec l'attaché militaire saoudien à Washington, le prince Bandar Ben Sultan, fait le tour de l'Arabie saoudite, de la Syrie, d'Israël, ça Bandar n'est pas là évidemment, de la Jordanie et de l'Égypte. Alors Assad se donne le luxe d'avoir une conversation complètement surréaliste avec McFarlane, comprenant un long monologue de 3h30 sur le triangle des Bermudes et sur le surnaturel, sur les événements, dans les événements humains. Il fait aussi savoir qu'il est toujours prêt à recevoir un émissaire américain à condition que ce ne soit pas Philippe Habib. Cette déclaration est considérée comme encourageante par les Américains. Quand Schultz apprend la mission McFarlane, il est furieux et menace de démissionner. Tout le monde comprend que la politique américaine au Proche-Orient est devenue totalement incohérente et qu'il faut donc la réorganiser. De toute façon, Philippe Habib est épuisé. Il était déjà à la retraite, je le rappelle, et annonce sa démission. Et on désigne McFarlane comme représentant du président des États-Unis au Moyen-Orient le 21 juillet 1983. Donc avec le statut très particulier dans le système américain de représentant du président des États-Unis. McFarlane adopte la ligne de fermeté prônée par Schultz, contrairement à la ligne de Clark et de Weinberger. Alors que les ambassadeurs américains dans les pays arabes signalent tous une dégradation rapide de la situation. Au début du mois d'août, le brigadier général Karl Steiner est envoyé coordonner les différentes activités militaires au Liban. Étant donné que les forces américaines au Liban dépendent à la fois du commandement européen, des États-Unis, de l'EUCOM, de la 6e flotte, du commandement des Marines, de la force multinationale et d'une mission militaire. Donc il faut au minimum quand même qu'il y ait un officier qui coordonne les différentes instances américaines, ne serait-ce que sur le plan militaire, présent au Liban. Au Liban, où les combats ont repris de façon terrible entre les forces libanaises et le PSP dans la montagne, du coup des obus perdus, comme on parle de balles perdues, tombent sur le secteur chrétien de Beyrouth. Le contingent américain à l'aéroport international se trouve exposé aux tirs de l'artillerie druze et à Beyrouth même, l'armée libanaise commence à se battre contre le PSP, donc les druzes, et Hamal. Si l'armée arrive à contrôler Beyrouth Ouest, la tension se révèle forte dans ses rangs entre militaires chrétiens et militaires musulmans. Le 23 juillet, l'opposition sous le commandement de Jumblatt, Karamé et Frangier se constitue en front de salut national dont la charte comprend essentiellement la dénonciation de l'accord du 17 mai qui met le Liban sous tutelle américaine et le rejet du régime phalangiste qui est sous ombrelle américaine. Quant à Nabi Berri, qui est à l'écart du Front de Salut National, il demande au nom d'Amal un rééquilibre des pouvoirs au Liban au profit des musulmans. Donc là, vous avez les chefs du Front de Salut National. Mais les photos sont pas bonnes du tout, je suis désolé. Dans ce contexte, Amin Gemayel est reçu par Reagan le 22 juillet. On lui réconforte par des assurances prodiguées que les États-Unis sont fermement engagés en faveur d'une solution au Liban et d'un retrait de toutes les forces étrangères, mais en privé, on lui affirme qu'il ne serait pas abandonné par les États-Unis. Alors, si les talents du grand communicateur ont rassasiné provisoirement le président libanais, qui n'a toujours pas ratifié, fait donner sa signature à l'accord du 17 mai, l'évolution de la position israélienne ne peut que l'inquiéter. Shamir et Arens se rendent à leur tour à Washington à la fin juillet. On s'accorde sur le principe d'un redéploiement israélien qui constituerait un signal positif à destination de la Syrie. L'optimisme de Schultz est tempéré par l'avertissement prodigué par Arens. Le redéploiement aura lieu indépendamment de la question de savoir si l'armée libanaise était ou non capable de remplir le vide créé par le départ des unités israéliennes. Donc on arrive à un paradoxe. Maintenant, les Américains freinent le retrait israélien alors que les Israéliens, eux, souhaitent au contraire l'accélérer. Donc, la condition pour un retrait qui est énoncée par les Israéliens est que Amin Gemayel arrive à un accord avec les Druzes. En langage clair, ça veut dire que les Israéliens ne céderont leur position à l'armée libanaise qu'à condition d'un accord préalable entre Druzes et forces libanaises. De surcroît, les Israéliens utilisent la question du retrait comme instrument de pression sur Amin Gemayel pour obtenir la ratification de l'accord. Mark Ferlin entame sa première tournée au début du mois d'août. Amin Gemayel refuse de ratifier tant qu'il n'y a pas d'éclaircissement sur le retrait israélien. Les Israéliens refusent de fournir un calendrier programmé, alors que des discussions sont en cours entre Steiner, Tanous, le chef de l'armée libanaise, et les responsables militaires israéliens. À Damas, Assad affirme que la Syrie ne fera aucune concession. Il pose encore des questions à McFarlane sur le triangle des Bermudes. On peut se demander s'il n'y a pas là une forme d'humour propre au président syrien, qui est connu pour avoir un humour très noir, parfois extrêmement cruel pour ses interlocuteurs. Mais cela dit, apparemment, c'est aussi une préoccupation d'Assad ces temps-là, puisqu'il discute aussi avec la presse américaine, enfin avec les journalistes américains qui viennent l'interviewer dans cette même période. Il parle toujours du triangle des Bermudes, ce qui évidemment interloque beaucoup ses interlocuteurs. Alors, McFarlane a constitué sa propre équipe, qui est composée de gens venant du Conseil de sécurité nationale. Ce sont pour la plupart des anciens du Vietnam, et ils refusent d'écouter les diplomates de carrière du département d'État, en particulier ceux qui connaissent le pays et la langue du pays. Ils sont trop pro-arabes pour lui. Les relations entre McFarlane et Dillon sont exécrables, et Dillon demande son rappel aux États-Unis. De toute façon, après 2 ans épuisants à Beyrouth, il ne rêve qu'une seule chose, c'est de partir. À Washington, comme à Beyrouth, les diplomates considèrent que McFarlane et son équipe recherchent une démonstration de force destinée à montrer que l'armée américaine est de retour après l'humiliation du Vietnam, tandis que sur le terrain, les officiers américains de la force multinationale sont conscients de l'extrême vulnérabilité de leur position dans le secteur de l'aéroport et à Beyrouth-Ouest. Alors, il n'y a aucune coordination entre les acteurs. McFarlane communique avec le Conseil de sécurité nationale, les militaires avec le Pentagone, la CIA avec la CIA et Dillon avec le département d'État. Les ambassadeurs américains sont furieux de la mission secrète de McFarlane qui a sapé leur crédibilité auprès de leurs interlocuteurs arabes. Alors, McFarlane n'a plus qu'une idée en tête, c'est de retarder le plus possible le premier retrait israélien. Schultz le soutient, tandis que Weinberger est remonté contre les Israéliens, qu'il accuse de laisser faire l'artillerie du PSP, puisque l'artillerie druze qui bombarde Beyrouth et les positions américaines de Beyrouth est dans un secteur contrôlé par l'armée israélienne. Aucun accord n'a pu être conclu entre druze et maronite. Finalement, des tractations de la dernière heure ont lieu à Paris, au domicile d'un riche homme d'affaires libanais d'origine musulmane sunnite, Rafik Hariri. McFarlane, François de Grosouvre, conseiller de Mitterrand, Walid Jumblatt, des représentants du gouvernement libanais d'origine du gouvernement libanais et des forces libanaises, tentent d'arriver à un compromis. On arrive à un accord qui comprend bien l'utilisation de la force multinationale en liaison avec l'FSI et l'armée libanaise et la constitution d'un gouvernement de coalition qui serait chargé de revoir l'accord du 17 mai à la lumière des alternatives pouvant mener au retrait complet. Le 28 août, Menachem Begin, complètement épuisé et déprimé, annonce sa démission. La date aurait été fixée par le fait que le chancelier allemand Helmut Kohl devait arriver les jours suivants en Israël, et Begin ne pouvait pas supporter l'idée de recevoir un chancelier allemand en tant que chef du gouvernement israélien. Le 1er septembre, le Likoud désigne Itzhak Shamir pour lui succéder aux fonctions de premier ministre, tandis que la visite du chancelier allemand est reportée. Begin exerce formellement son autorité pendant encore quelques jours, le temps de permettre à Shamir de conclure un nouvel accord de coalition. Pendant ce temps, un incident fortuit entraîne un déchaînement de violence à Beyrouth-Ouest entre Hamal et l'armée libanaise. Jumblat et le PSP se solidarisent avec Amal et l'artillerie russe de la montagne bombarde différents secteurs de la ville. L'armée libanaise perd un moment le contrôle de la banlieue sud, puis réussit à la reprendre. La force multinationale est victime de tirs collatéraux. 2 soldats américains et 5 soldats français sont tués dans différents incidents. Dans ce contexte, il est impensable que la force multinationale puisse aller dans le Chouf, puisqu'elle a déjà suffisamment de mal à simplement tenir ses positions dans Beyrouth. Les Israéliens en prennent prétexte pour refuser de céder leur position à l'armée libanaise. Apparemment, les Israéliens le font pour ménager Walid Jumblat, allié proclamé de la Syrie et chef de la coalition demandant l'abrogation de l'accord du 17 mai. Les Druzes d'Israël ont certainement influencé cette décision, ainsi que la préoccupation d'assurer une neutralité des Druzes libanais lors de la phase du retrait de l'armée. Étant donné l'armement des Druzes, la précaution peut être considérée comme sage. Mais au-delà de ces circonstances immédiates, la stratégie de Moshe Arens et de Moshe Levy, le nouveau chef d'état-major de l'armée, c'est de ne pas se sentir engagé du côté des chrétiens du Liban et de tenter d'arriver à un accord avec les Druzes et éventuellement avec les chiites. On en veut aux forces libanaises pour le désastre moral de Sabra et Shatila. On excuse les Druzes de chercher à éviter un Sabra et Shatila dans les montagnes du Chouf, ce qui risquerait de se produire en cas d'entrée des forces libanaises. Le rapport de force au Liban n'est plus en faveur d'Israël, qui n'a ni les moyens d'agir sous le gouvernement légal, ni d'avoir des alliés fiables, à l'exception de l'armée de la milice de Sarnadad. Les Israéliens prétendront ensuite que le coordinateur de leur politique au Liban, Ori Loubrani, était arrivé à un accord avec les Druzes pour l'entrée de la force multinationale dans le Chouf et qu'Amin Gemayel l'aurait refusé et que Weinberger aurait opposé son veto. Mais ce n'est pas prendre en compte l'accord négocié à Paris et les violences en cours à Beyrouth. Il y a bien eu un plan détaillé de relève négocié entre les Israéliens Steiner et Tanous, mais le 2 septembre soir, Moshe Levy et Ehud Barak, chefs du renseignement militaire, ont informé Tanous que le retrait est prévu le lendemain et que cette décision politique ne souffrira d'aucun retard. Autrement dit, ni l'armée ni la force multinationale n'a la possibilité d'intervenir dans la montagne. Dans le débat politique israélien, on parle à ce moment-là d'une option druze défendue par Arens contre l'option maronite de ses prédécesseurs. Elle sera de courte durée et particulièrement décevante. Alors, comme souvent dans le conflit israélo-arabe, je vous dis, il faut scinder l'écran, parce que pendant que vous avez une scène qui se passe à un endroit, vous en avez une seconde qui se déroule en parallèle, un peu comme dans les films d'Abel Gance. Du côté palestinien, Arafat, après l'échec des négociations avec Hussein, le roi Hussein, a tenté un rapprochement avec la Syrie en se rendant à Damas au début du mois de mai 1983. Il tente de faire admettre l'indépendance de décision et d'action de l'OLP, mais il est trop tard. Les militants du Fatah stationnés en Syrie entrent en dissidence, reprochant à Arafat sa bureaucratie et son clientélisme. Mais au-delà de la remise en cause de l'autorité d'Arafat et de ses pratiques, c'est toute la question de la stratégie politique de l'OLP qui est en jeu, puisque Arafat a accepté une solution politique à mener parallèlement à la lutte armée, tandis que la dissidence s'en tient à la seule lutte armée pour libérer la Palestine. Les dissidents sont soutenus par les autorités syriennes et ont la sympathie de la gauche marxiste palestinienne. Arafat, au dernier moment, a tenté de rappeler les chefs de la dissidence à Tunis et de nommer des hommes à lui à la tête des unités militaires stationnées dans la Bekaa. Mais avec le soutien avoué de l'armée syrienne, les dissidents lancent un mouvement de rectification, c'est-à-dire un coup de tentative de coup d'État contre Arafat et l'ONP. La dissidence est rendue publique le 13 mai et le chef de la rébellion est un colonel du Fatah, Saïd Marara, dit Abu Moussa. Certains dirigeants du Fatah considèrent qu'une partie des revendications de la dissidence est justifiée. On tente une médiation sur cette base quand Arafat loue, lui, un complot mené par la Syrie et la Libye. Mais comme les autres dirigeants du Fatah sont rapidement contestés par les dissidents, ils se rallient à Arafat, tandis que le FPLP et FDLP proclament leur neutralité et que l'Algérie et le Yémen du Sud proposent la médiation. Arafat se rend sur le terrain pour organiser la résistance de ses partisans, puis reprend sa diplomatie internationale, tandis qu'à partir du mois de juin, dissidents et loyalistes se combattent dans la Bekaa. Le 20 juin, Arafat s'est rendu d'urgence à Damas pour tenir un conseil révolutionnaire du Fatah et réussit à rallier à lui la majorité des quatre dirigeants du mouvement. La réplique syrienne est immédiate. L'armée syrienne appuie maintenant ouvertement les dissidents dans les combats de la Bekaa, tandis que les loyalistes commencent à se regrouper dans le secteur de Tripoli. Le 24 juin, Arafat échappe à un attentat sur la route de Damas à Homs, qui est bien connu pour son insécurité. Il est alors expulsé de Syrie pour avoir proféré des accusations mensongères contre le pays. Et par mesure de précaution, Rabash et Awatmeh l'ont accompagné à l'aéroport pour éviter qu'il soit éliminé sur la route par des éléments incontrôlés. Rentré à Tunis, Arafat affirme que l'armée syrienne prépare un nouveau Sabra et Shatila dans la Bekaa et Tripoli. Et la réponse syrienne est que les personnes changent, mais que la cause demeure. Chose que d'ailleurs les Syriens ne pratiquent pas eux-mêmes. Alors, officiellement, Damas n'est pas concerné par la crise intérieure du Fatah, qui embarrasse beaucoup les Soviétiques, se met de choisir entre leurs deux alliés régionaux, d'où le fait que les Soviétiques appellent à un dialogue politique, tandis que Saddam Hussein, lui, apporte son soutien à Arafat. À la fin juillet, les dissidents appuyés par l'armée syrienne se lancent dans une vaste opération destinée à chasser les loyalistes de la Bekaa. Les affrontements font des dizaines de morts. Ensuite, la situation se stabilise provisoirement, les loyalistes se repliant sur le secteur de Baalbek. À Tripoli, les loyalistes éliminent les pro-syriens des camps palestiniens. Et au début de septembre, le Fatah se donne le luxe d'appuyer le gouvernement d'Amin Gemayel dans sa tentative d'établir un dialogue national au Liban. Dans le système pervers du jeu des alliances libanaises, les loyalistes du Fatah, par hostilité à la Syrie et donc à ses soutiens, se trouvent aspirés dans le même camp que les forces libanaises. Cela ne va pas durer, mais c'est une des premières phases du rapprochement final entre les forces libanaises et le Fatah, qui sera l'une des caractéristiques les plus perverses de la guerre civile libanaise. Alors, l'accord négocié à Paris prévoyait un dialogue national entre les différentes parties libanaises, ce qui va provoquer un déferlement de violence qui atteint dans son intensité les pires moments de la guerre civile de 1975-76. Cette guerre qu'on va appeler la guerre pour le dialogue, curiosité libanaise, aurait pour but de fixer le rapport des forces avant l'ouverture du dialogue. Le 3 septembre 1983, l'armée israélienne amorce son retrait du Chouf tout en déclarant le contraire. En une journée, elle établit ses positions au nord du fleuve Awali. Donc, ici. En protestation, Amin Gemayel suspend l'accord du 17 mai. L'armée libanaise, qui n'a pas été prévenue et qui est accaparée par les combats de la banlieue sud, ne peut relever les forces libanaises que dans le secteur de Souk el-Harb, sur la route Beyrouth-Damas et sur une ligne de confrontation allant de Raldé, à proximité de l'aéroport international. En gros, la ligne de front, si on peut dire, de l'armée libanaise. D'ici à peu près, voilà, vous voyez. Le PSP, doté d'une puissante artillerie fournie par les Syriens, l'emporte rapidement sur les milices chrétiennes. C'est un véritable carnage. Les populations chrétiennes, fuyant les massacres en cours, se précipitent sur Beyrouth, soumis au bombardement de l'artillerie druze. La ville de Dar el-Kamar, qui se trouve à peu près ici, centre historique du Chouf, se trouve encerclée par les druzes. Samir Jaja y organise la résistance des forces libanaises. Israël et la France font savoir qu'ils n'accepteront pas un nouveau massacre dans cette ville. Jumblatt maintient l'encerclement, mais accepte que la Croix-Rouge internationale entreprenne de ravitailler les assiégés. En quelques jours, la déroute chrétienne est totale. Ariel Sharon critique vivement Moshe Arens pour avoir permis à la Syrie de récupérer une grande partie de ses pertes de l'année précédente. L'intéressé lui répond que c'est lui qui a fait entrer les forces libanaises dans le Chouf et qu'il est donc responsable des événements. On est loin des discours des années précédentes, où Israël se présentait comme défenseur des chrétiens du Liban menacés de génocide. On se contente de souligner que les massacres en cours ne provoquent pas la même réaction internationale que celle de Sabra et Shatila. Il est vrai que l'attention internationale est captée par la destruction d'un avion civil coréen par les soviétiques au-dessus de leur territoire le 1er septembre. Dans un célèbre discours, Reagan condamne l'empire du mal. Avec amertume, les Arabes notent que l'on n'en a pas dit autant quand les Israéliens ont descendu un Boeing libyen. La force multinationale se trouve exposée aux tirs de l'artillerie druze, d'où de nouvelles pertes. Les aviations américaines et françaises font des démonstrations aériennes au-dessus des positions druzes, ce qui suspend temporairement les tirs. Adepte de la réponse graduée, l'artillerie américaine dans le secteur de l'aéroport commence à répliquer. Il s'agit en langage militaire d'un simple retour de feu compatible avec le mandat de la force multinationale. Mark Farlane, en compagnie du prince Bandar, se précipite à Damas pour essayer d'obtenir un cessez-le-feu. Les Syriens exigent une véritable reddition de la part du régime d'Amin Gemayel. Bandar et Hariri continuent leur médiation saoudienne, tandis que Mark Farlane revient sur Beyrouth. Il est partisan d'une démonstration de force et obtient de Reagan l'envoi du cuirassé New Jersey au large de Beyrouth. Ce dinosaure de la Seconde Guerre mondiale est capable d'envoyer des projectiles de la taille d'une Volkswagen, selon l'expression de Reagan, à plus de 35 km de distance. Le New Jersey doit arriver au large de Beyrouth le 26 septembre. Le 8 septembre, pour la première fois, une frégate américaine bombarde une position druze avec des canons de 5 pouces. Pour l'instant, il s'agit encore d'un retour de feu. Donc ça, c'est les chrétiens de Dar el-Kamar. L'armée libanaise accuse les dissidents du Fatah, l'armée de libération de Palestine sous contrôle syrien, le Hezbollah, les gardiens de la révolution iranienne, d'être les principaux éléments de l'offensive en cours à destination de Beyrouth. Il est vrai que les écoutes américaines ont entendu des communications en farsi, donc en persan. Le samedi 10 septembre commence la bataille de Souk el-Harb, où une brigade de l'armée libanaise commandée par Michel Aoun tient ce verrou essentiel de la route Beyrouth-Damas, à 5 km de la résidence de l'ambassadeur des États-Unis, où s'est installé McFarlane. Le PSP lance l'assaut principal, même s'il est possible que d'autres éléments y aient participé, et on se bat au corps à corps. Dans ses mémoires, Steiner explique que Thanos n'a pas confiance dans le comportement de Michel Aoun. Affolé et prenant à la lettre les affirmations de l'armée libanaise comme quoi elle est au point de s'effondrer, McFarlane envoie un câble urgent à la Maison-Blanche affirmant que l'armée libanaise est sur le point de succomber sous les coups conjoints des Palestiniens et des Iraniens et qu'aucun Libanais ne participe à l'assaut. En liaison en direct avec le conseiller à la sécurité nationale William Clark, il lui fait entendre les bruits de la bataille relativement proches. Le 10 septembre, le Conseil de sécurité nationale se réunit et, impressionné par les arguments de McFarlane, Reagan donne l'autorisation d'utiliser l'artillerie navale et aérienne pour soutenir l'armée libanaise s'il est attaqué par des éléments non libanais et si le gouvernement libanais en fait la demande. Souk el-Harb est considéré comme vital pour maintenir la sécurité de la force multinationale. Les chefs militaires et Weinberger sont hostiles à cette décision qui va bien au-delà du mandat originel de la force multinationale et tente d'en retarder le plus possible l'application. Mais une fuite opportune dans la presse américaine relance le débat lancinant depuis le Vietnam sur les pouvoirs de guerre du président des États-Unis. Si on est dans une situation de guerre, il faut alors une résolution du Congrès pour maintenir les militaires américains au Liban. La bataille de Souk el-Harb a pour enjeu le maintien d'un dispositif militaire continu de l'armée libanaise interdisant de halder à proximité de l'aéroport jusqu'à la montagne, la jonction entre les forces druzes et la banlieue sud de Beyrouth. Les 16 et 17 septembre, les navires de guerre américains retournent le feu à la suite du bombardement de l'ambassade américaine à Yarzeh. Le tournant décisif a lieu le 19 septembre, quand l'artillerie de marine américaine apporte son soutien à l'armée libanaise à Souk el-Harb. La décision est motivée par l'importance de l'enjeu, la présence avérée de forces non libanaises et la demande du gouvernement libanais. Le contingent américain cesse objectivement d'être une force neutre dans la guerre civile libanaise et devient l'une des factions sur le terrain. Officiellement, la défense de Souk el-Harb est définie comme un intérêt vital pour la protection des Marines de Beyrouth. Dès le début, il a été difficile pour les Libanais de distinguer entre le contingent de la multinationale et les conseillers militaires américains auprès de l'armée libanaise. D'autant plus que les deux catégories de militaires s'échangent constamment des services. De toute façon, et ça c'est une règle générale, une force de maintien de la paix dépend au préalable d'un consensus entre les parties sur sa nécessité. C'est-à-dire qu'il faut que les parties soient d'accord pour la paix pour qu'il y ait une force de maintien de la paix. Sinon, une force de maintien de la paix devient une force combattante. Comme la force multinationale avait pour mission de soutenir le gouvernement légal libanais, elle était condamnée à devenir un acteur supplémentaire dans la guerre en cours. Selon la règle, Ronald Reagan définit les événements comme une agression soviétique contre le Liban et la Syrie. Contre le Liban, la Syrie étant définie comme étant sous influence soviétique. En même temps, McFarlane et Banda reprennent leur action diplomatique. Le premier souligne à Damas le 23 septembre l'arrivée imminente de New Jersey au large de Beyrouth. Le second, ainsi que Rafik Hariri, travaille à la mise en place d'un dialogue national à Beyrouth. À Washington, l'administration Reagan arrive à un compromis avec le Congrès sur le maintien du contingent américain à Beyrouth pour une période de 18 mois, c'est-à-dire au-delà des élections présidentielles de novembre 1984, ce qui diminue l'enjeu politique de la présence de la force multinationale. Après un baroud d'honneur à Souk el-Rharb et de violents bombardements de Beyrouth, qui entraînent une réplique de l'aviation française, un cessez-le-feu est obtenu le 25 septembre. C'est le 179e cessez-le-feu au Liban depuis avril 1975, selon la presse. Le bilan officiel de ces trois semaines de violence est de 1738 morts, plus de 10 000 blessés, 126 000 sans-abri, 61 villages détruits. Le gouvernement Wasan a démissionné et gère les affaires courantes. Une commission militaire est établie entre l'armée et les différentes milices. Diplomates américains et saoudiens travaillent à la préparation d'un dialogue national qui comprendrait la Syrie. L'opposition exige avant tout l'abrogation de l'accord du 17 mai, ce que ne peut accepter Amin Gemayel qui y perdrait le soutien américain. Alors, un effort considérable est déployé pour déterminer que le dialogue national ne peut se tenir au Liban. On s'oriente vers la solution d'une conférence libanaise à Genève. Aux États-Unis, un remaniement de l'administration Reagan conduit au départ de William Clark de ses fonctions de conseiller à la sécurité nationale. Il devient secrétaire à l'intérieur. Les pragmatiques proposent pour lui succéder James Baker, mais les conservateurs défendent la candidature de Jane Kirkpatrick, la tête de file des néoconservateurs et ambassadeur à l'ONU. Reagan refuse de choisir et préfère désigner le second de Clark, McFarlane, le 17 octobre 1983. Ainsi, cet ancien officier de Marines, qui n'a ni la puissance intellectuelle d'un Kissinger ou d'un Brzezinski, se trouve occupé ce poste essentiel. Si c'est un grand travailleur, il est très brouillon et se laisse facilement influencer. Ce sera l'une des grandes erreurs, cette nomination, de l'administration Reagan. Sur le terrain, son second, Richard Fairbanks, exerce l'intérim avant la désignation d'un nouvel émissaire présidentiel américain. Le retrait israélien sur la Wadi était censé procurer une plus grande sécurité pour l'armée d'occupation. La stratégie israélienne dépend toujours de la constitution de milices de collaborateurs. Sandra Dad, atteint d'un cancer, est obligé de transmettre son commandement à un second qui exerce l'intérim. La garde nationale établie en zone chiite est très mal supportée par la population. On a tenté de la changer de nom en appelant partisan de l'armée du Liban libre, Ansar Jaish Lobnan el-Hour, mais cette tentative de gouvernement colonial indirect et à bas coût se révèle rapidement être un échec. Les voies d'accès aux régions occupées sont sévèrement contrôlées et les taxes sont imposées au transfert de marchandises. Les chrétiens reçoivent un traitement privilégié avec un transit maritime plus facile entre les ports contrôlés par les forces libanaises et Saïda. Cette politique du bâton et de la carotte est un échec complet. De septembre 1983 à septembre 1984, la moyenne mensuelle des opérations contre les militaires israéliens passe à 47 par mois. Si on y ajoute les attentats contre les collaborateurs, on est à 52-53 opérations par mois. Les Palestiniens et les Libanais au service des occupants et qui doivent contrôler la population en offrant du travail ou des permis de circuler sont systématiquement visés par des attentats ou des enlèvements. Les Israéliens se trouvent dans l'impossibilité d'établir un réseau solide d'informateurs recrutés par incitation financière ou par pression et chantage, contrairement à ce qui se passe dans les territoires occupés palestiniens. Le tournant décisif pour l'occupation israélienne va avoir lieu le 16 octobre à Nabatieh, la grande ville chiite de l'intérieur. La population y célèbre la grande cérémonie de la Ashura, commémorant le martyr de l'imam Hussein en 680. Alors que 60 000 personnes sont engagées dans cette grande émotion collective, un convoi de l'armée israélienne tente de traverser la ville en coupant le cortège. Les célébrants y voient un sacrilège et lancent des pierres contre les soldats qui répliquent en tirant sur la foule. Si le bilan paraît limité, deux morts et de nombreux blessés, l'affaire est ressentie comme un sacrilège. Dès le 17 octobre, les autorités religieuses chiites appellent à la désobéissance civile et condamnent les collaborateurs d'Israël à aller en enfer, ce qui n'est pas une métaphore dans le cas précis. Toute l'infrastructure de la collaboration s'effondre en quelques semaines, tandis qu'Amal quitte l'attentisme pour basculer du côté des éléments les plus radicaux de la résistance. Alors, le cessez-le-feu dans le reste du pays, enfin dans le reste du centre du pays, puisqu'on se bat aussi dans la Bekaa et à Tripoli, je vous rappelle, mais ça c'est dans une autre guerre qui se déroule, est évidemment précaire. Alors que Damas et Washington s'affrontent dans une escalade verbale, la force multinationale se trouve prise dans un véritable harcèlement quotidien. Et vous avez le droit à votre pause après ce déchaînement de violence. Donc 5 minutes de pause. Je vous déconseille d'aller dans la neige.